C'est l'effondrement du contre-pouvoir syndical qui se fait sur la décennie 80 de manière spectaculaire et qui laisse le champ libre au patronat. Et ce contre-pouvoir qui s'effondre, il est sous-jacent en fait dans plusieurs chapitres de notre livre où on voit les syndicats qui, sincèrement, il n'y a pas d'autre expression, qui acceptent d'aller à la soupe à travers les instances paritaires, concrètement ce qui gère la sécurité sociale et ses multiples satellites. On voit se dessiner un syndicalisme d'appareil qui peut se passer de militant, qui n'a plus besoin d'eux pour vivre financièrement et qui devient dépendant du patronat
à un syndicalisme d'accompagnement.
Un syndicalisme d'accompagnement est encore une expression polie. C'est un syndicalisme de complaisance à bien des égards et qui accepte de jouer un jeu dangereux, notamment...
Là, vous parlez de la CFDT, par exemple.
Oui, et je parle aussi de l'amiante. Les syndicats ont assumé une lourde responsabilité dans ce dossier en refusant de voir... ce qui était en train de se passer.
Comment vous expliquez cette orientation, effectivement, des syndicats au cours de ces périodes ?
Moi, je pense que ça tient à un phénomène historique, c'est qu'à partir des années 70, le nombre d'adhérents au syndicat baisse de manière très régulière et assez forte. Et à l'inverse, le nombre de permanents dans les grandes confédérations augmente, lui, de plus en plus. Donc vous avez deux courbes là qui se croisent en quelque sorte. Les syndicats ont vraiment besoin de financement. Comme tout ça n'est pas du tout organisé, que la loi reste extrêmement floue, que les syndicats n'ont pas d'obligation de compte à rendre, etc., de compte à publier, ils s'organisent un peu comme ils peuvent. Et je pense qu'ils répondent beaucoup aussi à cette contrainte qui pèse sur eux, qui est une contrainte financière. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le vrai pouvoir, et ça on le rappelle à de nombreuses reprises, ça reste l'argent.
Dans la période 68-80, moi je mettais une date importante, c'est 74 avec l'élection de Giscard. Et auparavant, il y a un épisode que vous évoquez, c'est l'IP. Ça, c'est un grand moment. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui, je me souviens de ça.
Oui, c'est un moment charnière. Hein,
c'est un moment charnière. Ouais. Là, vos patrons ont eu chaud aux oreilles.
Là, c'est il y a Claude Neuschwander, qui était le patron un peu de la Nouvelle Gauche, qui avait été choisi un moment pour reprendre cette entreprise en lien avec le patronat qui était considéré comme progressiste à l'époque, c'est-à-dire des gens comme Antoine Riboul, le patron de Danone, par exemple. Claude Neuschwander a une phrase assez cruelle, il dit « c'est le moment où on passe d'un capitalisme où l'entreprise est vraiment au centre, à un moment où c'est la finance qui prend le pouvoir. » Et c'est intéressant, effectivement, ouais. Alors peut-être tout le monde ne se rappelle pas de l'épisode LIP, c'est en 73, effectivement, cette entreprise d'horlogerie, entre autres, est en crise, se cherche un repreneur, c'est finalement... et donc, y a, d'une certaine façon, c'est les employés, les salariés qui veulent sauver leur entreprise, mais non pas pour faire la révolution.
Qui, dans un premier temps, y parviennent.
Absolument, non pas pour faire la révolution. Bon, c'était notamment la CFDT, hein, quelqu'un comme Charles Piaget qui est resté, dont le nom est resté dans cette histoire-là, non pas pour faire une révolution bolchevique, mais au contraire, parce qu'ils étaient attachés à leur outil de production et qu'ils voulaient sauver l'entreprise. Mais effectivement, pour le patronat de l'époque, François Sérac et le CNPF, c'était absolument abominable. C'était qu'est-ce que c'est que ces salariés qui veulent prendre le contrôle de l'entreprise. Enfin bon. Et donc, finalement, c'est Claude Neuschwander qui reprend l'entreprise. Et finalement, il y a un choix politique qui va être fait. Alors que cette entreprise était viable économiquement, et en 1975, donc effectivement c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre, Jacques Chirac, je raconte la scène dans le chapitre, demande à Antoine Riboud, convoque quasiment Antoine Riboud à l'Élysée en présence de François Sérac, et dit bon maintenant c'est ou vous ou Libre quoi. On est après le premier choc pétrolier, il faut quelque part faire un exemple, et on est dans cette période où effectivement c'est la financiarisation de l'économie qui commence à arriver, et Claude Neuschwander qui se retrouve devant le fait accompli, refuse d'aller dans cette direction-là, et il va se retrouver à la porte et blacklisté du jour au lendemain. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un moment un peu de bascule idéologique, l'affaire LIP.
C'est ça, idéologique, c'est-à-dire que là, la finance va prendre le pas sur l'économie. L'économie financiarisée, au moins pour la France, commence là.
Et puis, il y a effectivement, bon, si on reste dans l'idéologie, on parlait du rôle de la gauche tout à l'heure, c'est vrai que dans ces années 70, avant l'élection de François Mitterrand, des gens comme par exemple Jacques Attali ont joué un rôle de poisson pilote extrêmement important pour essayer de convertir la gauche à cette espèce de néolibéralisme. Et c'est vrai que si on parle d'histoire secrète, on présente toujours 1983, le tournant de la rigueur, etc. En fait, on s'aperçoit que c'est un choix politique, pour le coup, qui n'était pas du tout dicté par des raisons économiques et qui a été préparé bien en amont par des gens comme par exemple Jacques Attali, qui prenait une politique anti-keynésienne, il ne fallait pas du tout soutenir les salaires et passer par une rigueur budgétaire.
Alors la troisième période que vous choisissez, séquence historique suivante, c'est 81-87, le socialisme patronal.
Voilà, on est en plein dedans là.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tous les effets en fait de la conversion idéologique de la gauche.
gauche. C'est-à-dire que la gauche va...